est-ce que l'évangile est pertinent pour les adolescents? Très souvent, on pense que les ados, c'est une catégorie socio-économique qui va peut-être une fois mûrir. Et peut-être, après de longues études, ils vont enfin tomber sur leurs pieds et préparer notre retraite. Mais il y a quand même une période entre deux, 15 à 21 ans. Et c'est une période critique
pour que nos jeunes découvrent l'évangile, mais non seulement découvrent, mais découvrent comment l'évangile change leur vie. Et ce livre, écrit par une jeune fille qui, à l'époque, avait 19 ans, nous l'avons publié, donc, avec la REB, notre site de jeunes. Et c'est un livre qui explique aux ados comment ils peuvent faire face à tous les défis et à tous les challenges, les difficultés de la vie chrétienne en tant que jeune ado. Moi, je vous recommande ça. Si vos ados, vos enfants, petits-enfants ne l'ont pas, ça vaut vraiment la peine. Et suite à cela, une vie de défis. Il faut que l'on puisse faire confiance à nos ados pour qu'ils ne deviennent pas tout simplement les assistés, pour qu'ils deviennent des acteurs dans notre société. Pour la plupart d'entre vous, vos parents, vos grands-parents, c'était mon cas, dès l'âge de 11, 12, 13 ans, ils travaillaient. Maintenant, évidemment, le moment d'entrée dans le marché professionnel se repousse de plus en plus loin. Et par conséquent, parfois, on garde les ados dans un cocon et ils deviennent une catégorie à part et finalement, c'est finalement prendre un break, faire ceci, faire cela. Il faut que la vie des ados soit remplie de défis chrétiens qui comptent. Et ces deux livres, je vous prétends, peuvent préparer vos ados à affronter sainement la vie d'adulte. Donc voilà, deux livres pour les ados. Un pour les hommes, la prédication textuelle. Autrement dit, au lieu simplement de sauter d'un passage à l'autre, parfois dans nos études ou dans nos messages, savoir aborder un livre en entier de façon séquentielle et systématique. Et ce livre, c'est un béaba de préparer une série de prédications sur un livre. Donc vous qui avez l'habitude d'apporter les messages ou qui aimeriez davantage approfondir vos connaissances, je vous recommande ce livre de Helm, David Helm, la prédication textuelle. Il y a un autre sur la table de Keller sur la prédication. Nous avons tous à apprendre dans ce domaine. Et ce n'est pas réservé rien qu'aux hommes. Ce qui m'amène, troisième groupe de personnes ici cet après-midi, et non les moindres, les femmes. Ce livre de Kathleen Nielsen et Gloria Fulman est extraordinaire parce qu'avec une approche théologique saine, au lieu de dire toujours ce que les femmes ne peuvent pas faire, ce livre apporte une lumière, un éclairage sur finalement cette extraordinaire complémentarité entre hommes et femmes. Dieu nous a fait différents, Dieu merci. Et par conséquent, non seulement il nous a fait différents, mais il nous a donné les fonctions différentes. Et ce livre, un ministère féminin centré sur la parole, peut parfois rectifier nos éducations chrétiennes étriquées ou finalement limiter nos ouvertures démesurées. Et moi, je vous recommande vivement ce livre, Ministère féminin, centré sur la parole. Et puis, je continue. Encore deux annonces. Évangile 21, qui est une œuvre dont je m'occupe encore, veut finalement être un lieu de ressourcement pour les pasteurs anciens, responsables d'activités, que ce soit donc de groupes de dames, groupes de jeunesse, travail parmi les enfants, un lieu de ressourcement. Et nous avons un site donc, que vous pouvez visiter et où chaque semaine, vous avez quantité de nouveaux articles sur le site. Et c'est dans toutes les catégories pour tout ce qui est ministère pratique, tout ce qui est livre biblique. Il y a des prédications là-dessus, il y a des conférences et des vidéos. Mais tous les deux ans, Évangile 21 organise un séminaire à Genève et le prochain séminaire et du 29 mai au 1er juin l'année prochaine à Genève. Et le thème, c'est finalement l'Exode, un peuple libéré. Et nous aurons donc 9 interventions sur le livre de l'Exode avec les personnes comme justement Tim Keller, Don Carson, Henri Blocher et quantité d'autres. Et c'est vraiment un moment particulier pour le ressourcement. Donc je vous recommande, si vous n'avez rien d'autre à faire pendant ce week-end, ce séminaire à Genève. Et puis, dans peu de temps, à Genève et à Toulouse, au mois d'octobre, donc le mois prochain, justement, l'une des femmes qui a écrit ce livre, Kathleen Nielsen, sera des nôtres et elle va apprendre aux femmes comment étudier la parole de Dieu pour en retirer vraiment un bénéfice de la parole, et elle va faire cela à partir du livre de Néhémie. Donc, il y a la possibilité de se rendre à Genève ou à Toulouse, c'est le vendredi soir et la journée de samedi. Il y a déjà plus de 400 femmes qui sont inscrites entre ces deux lieux pour ces conférences, mais nous vous les recommandons vivement. Et à partir de l'année prochaine, vraisemblablement, avec Kathleen, et c'est Sylvia, mon épouse, qui s'occupe de tout ce département, mais vraisemblablement, nous allons offrir des séminaires pour apprendre aux femmes non seulement comment enseigner la parole, mais comment étudier la parole, mais comment enseigner la parole dans des groupes de dames, par exemple, et ailleurs. Les femmes sont toutes aussi capables d'enseigner, d'étudier et de prêcher que les hommes. Seulement, dans le contexte de l'Écriture, il y a des contraintes que la parole met en place. Mais il faut encourager nos femmes à étudier et enseigner la parole à leur tour. Donc, si cela vous intéresse, vous vous mettez en contact avec Sylvia à Évangile 21. C'est la fin de la pub, vous pouvez maintenant vous endormir. Ah non, non, on va quand même continuer. Alors, peut-être, quand même, un bref rappel. L'Évangile selon Josué, avec ses grands thèmes, entrer dans l'héritage, posséder l'héritage, consolider l'héritage et demeurer dans l'héritage. Dans le livre de Josué, nous avons finalement un ensemble, on peut appeler ça des symboles ou des types, qui finalement nous prépare pour la venue du Messie. Autant finalement de symboles, d'actes, de rites, de cérémonies qui agissent comme des poteaux indicateurs de l'Évangile. Rien n'est complet en soi. Tout n'est pas dit. Mais il y a dans l'Écriture, et en particulier dans l'Ancien Testament, une construction qui nous prépare pour la venue de Christ et donc ce dont Paul parle aux Galates. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Mais les temps étaient accomplis quand toutes les leçons de l'Ancien Testament étaient mises en place. Et le livre de Josué est finalement une leçon magistrale. Et hier, nous avons vu donc cette première partie jusqu'à vers la fin du chapitre 5, entrer dans l'héritage, où, avant que Israël n'entre en possession de son pays, Dieu, dans sa grâce, touche le cœur d'une femme qui fait partie de l'ennemi, une Cananéenne, Rahab, qui se convertit et qui, par la suite, fait partie de la généalogie de Christ et qui est un exemple dont l'écrivain aux Hébreux en parle. Mais ensuite, nous avons appris plusieurs choses, entre autres, que le peuple, après avoir suivi la nuée et la colonne de feu, maintenant suit l'arche. Pourquoi l'arche ? Table de la loi, qui est finalement l'annonce de la mauvaise nouvelle. La loi existe, la sainteté de Dieu existe, mais l'homme est incapable, finalement par lui-même, d'obéir à la loi. Ah, mais il y a aussi sur l'arche, le propitiatoire, où finalement, en offrant des sacrifices et le sang sur le propitiatoire, Dieu est rendu propice à notre égard, sa colère est apaisée, et il peut par conséquent pardonner et éloigner, expier nos péchés. On suit l'arche désormais, la loi propitiatoire. Ensuite, il y a ces 12 pierres qui sont dressées à Gilgal comme un mémorial. Pourquoi ces pierres? Pour que tu puisses raconter à tes fils et aux fils de tes fils tout ce que l'Éternel a fait pour toi, compris dans l'Évangile le devoir de la transmission. Ensuite, il y a la circoncision qui n'était pas pratiquée pendant toutes ces années dans le désert. Et la circoncision, c'est le signe de l'alliance. C'est un signe extérieur dans la chair que l'on appartient à l'Éternel, tout comme aujourd'hui dans l'Église, le baptême est un témoignage, un signe extérieur que nous avons accepté finalement Christ comme sauveur et maître. Et en dernier lieu, il y a la Pâque. Et la Pâque, c'est la fête du rachat, la fête de la rédemption. Et la rédemption veut dire avant tout un changement de propriétaire. Et ça, c'est l'Évangile aussi. L'Évangile n'est pas tout simplement Christ sauveur. L'Évangile, c'est Christ maître. Et je pense que vous, comme moi, vous avez souvent entendu des témoignages où les personnes racontent « Oui, à un moment donné, je me souviens, j'avais accepté Christ comme mon sauveur, mais je n'avais pas compris qu'il était mon maître. » Ce qui indique que l'Évangile n'a pas été bien transmis. Parce que l'Évangile, c'est sauveur et maître. C'est rédemption, c'est changement de propriétaire. Donc ça, c'était la première partie, entrer dans l'héritage. Ensuite, nous avons abordé posséder l'héritage, et il y a eu cette rencontre entre Dieu et l'ange de l'Éternel, une théophanie. C'est Dieu qui est apparu à Josué, et où dans cet échange, il était devenu clair, non Josué, ce n'est pas moi qui me mets derrière toi, c'est toi qui te mets derrière moi. C'est moi qui prends le commandement. Et Dieu prend toujours l'initiative dans ce projet de salut. C'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Mais nous avons aussi vu, dans ce processus de posséder l'héritage, il y a des interventions miraculeuses de Dieu et qui continuent encore aujourd'hui. Il y a toujours les interventions surnaturelles miraculeuse de Dieu. Mais il ne faut pas finalement évacuer le facteur temps. Parce que Dieu se sert du temps pour nous apprendre des leçons que le miraculeux ne pourrait jamais nous apprendre. Et donc, facteur temps, Israël a dû marcher autour de Jéricho pendant 7 jours, 13 fois. Et ensuite, Josué a dû livrer le combat contre les Cananéens. Quatre campagnes de militaires qui ont duré 7 ans. Et ce principe de facteur temps, on va regarder encore cet après-midi, mais c'est un constant dans l'Écriture. Ensuite, nous avons vu que devant l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu œuvre dans une vie, prend l'initiative pour sauver quelqu'un, il y a toujours un ennemi qui est en rage. Carson, en faisant ses études sur l'Apocalypse et en abordant finalement ce moment où il y a des sceaux sur les fronts, vous connaissez ces passages, Apocalypse 13 et 14, il dit tout le monde porte un sceau. Soit c'est le sceau du Saint-Esprit, soit c'est le sceau de Satan. Mais tout le monde porte un sceau. Tout le monde, qu'il se dise athée, bouddhiste, musulman, peu importe. Tout le monde a un sceau qui indique son appartenance. Satan ou Dieu? Et Carson dit ceci, c'est à cela que je veux en venir. Si vous portez le sceau de Dieu, vous subirez la rage, la rage de Satan. C'est la fatigue maintenant. Si vous portez le sceau de Dieu, vous subirez la rage de Satan. Si vous portez le sceau de Satan, vous subirez la rage de Dieu. Quel sceau portons-nous? Quelle rage allons-nous subir. Et ici, dans ce passage, finalement, nous apprenons que dès le moment que Dieu prend l'initiative pour sauver et pénétrer dans une vie, Satan est enragé. Et que ce soit donc dans cet incident avec Achan, convoitise, dans cet incident avec les Gabaonites, finalement, autosuffisance, nous sommes confrontés aux deux grands ennemis qui nous guettent en tant que chrétiens. La convoitise, parce que Dieu ne nous satisfait pas, nous ne sommes pas heureux et contents en Jésus seul, ou l'autosuffisance, où nous pensons que nous pouvons finalement nous débrouiller tout seul. Et puis en dernier lieu, nous avons également vu que face à ces égarements, dérapages, il est toujours temps et lieu et nécessaire de renouveler l'Alliance. Ce retour à la parole. C'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Maintenant, consolider l'héritage. Consolider l'héritage. Je vais essayer de me trouver dans mes notes, c'est toujours préférable. Dans toute conquête militaire, il y a toujours deux étapes. Que ce soit dans le contexte profane ou ici, dans le contexte du livre de Josué. Il y a toujours deux étapes. Il y a l'étape de la possession pour occuper le territoire, ce que nous avons vu hier. Et il est l'étape de la consolidation. Et la consolidation, c'est l'étape où on nettoie toutes les poches de résistance, où on termine, en quelque sorte, le travail. Et dans tout ce qui est conquête militaire profane, ça se vérifie. Je vous donne deux exemples. Deuxième guerre mondiale. La France était occupée par les Allemands. Et un peu partout, il y avait donc des casernes. Il y avait une présence allemande qui dominait, qui occupait le pays. Mais ils n'ont jamais pu consolider leur gain. Il y avait une résistance. Et finalement, au bout de quelques années, cette résistance, avec les alliés, a eu gain de cause pour chasser l'occupant. Ou on prend l'histoire d'Afghanistan, récemment, où finalement, ce sont les Russes qui ont envahi l'Afghanistan, qui ont établi finalement leur caserne, qui ont mis en place un gouvernement fantoche, et puis finalement, ils ont occupé le pays. Mais il y avait une telle résistance à l'intérieur du pays que petit à petit, les Russes ont été obligés d'abandonner le pays. Il y a une différence entre occupation et consolidation, possession, consolidation. Et dans l'histoire de Josué, il y a l'étape de la possession, et ça s'est passé sous Josué, de manière extraordinaire, 4 campagnes militaires, ça a duré 7 ans, et au terme de 7 ans, on peut dire que le pays était occupé, de telle sorte que l'évaluation de Dieu sur cette étape avec Josué, c'est que aucune des bonnes paroles de l'Éternel à l'égard de Josué et de cette étape de la conquête ne s'est fait sans résultat. Il a réussi dans l'étape de la conquête. Mais l'étape de la consolidation, eh bien ça c'est l'étape dont nous allons parler maintenant. Chapitre 5 au chapitre 12, Josué avec tout Israël occupe le pays. Et là, à partir du chapitre 13, verset 1, je lis. Josué était vieux, d'un âge avancé. Et l'ange ou l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. Et vous pourriez continuer votre lecture facilement jusqu'au verset 5 du chapitre 14. Mais une fois sous Josué, que le pays était occupé, Josué a pris tous les chefs et les anciens des différentes tribus en disant « Maintenant, c'est à vous. J'ai accompli ma part. Maintenant, c'est à vous et chaque tribu, vous allez prendre possession du territoire qui vous a été alloué. Et chacun avait donc ses frontières géographiques sur le territoire donc de Canaan. Et Josué a dit, maintenant, allez sur votre territoire et terminez le travail. Consolidation. Josué a fait l'occupation avec l'ensemble d'Israël. Maintenant, c'est à chaque tribu de consolider les gains en nettoyant les poches de résistance. Donc, à l'ouest du Jourdain, en Transjordanie, il y a les deux tribus et demie qui retournent. Donc, Ruben Gad et la demi-tribu de Manassé. Et à l'est du Jourdain, il y a les neuf autres tribus et demie qui prennent possession de leur territoire. Et toute cette ventilation géographique occupe les chapitres 13 à 19 du livre de Josué. Il n'y a pratiquement aucune évaluation de cette étape dans le livre de Josué. Mais encore une fois, j'aimerais juste vous rappeler cet élément dont nous avons parlé plus d'une fois. Ça, c'est les territoires donc d'Israël à l'est comme à l'ouest du Jourdain. Mais il y a encore une fois, dans l'étape de la consolidation, le facteur temps. Et je vous lis maintenant d'abord en Exode au chapitre 23, juste deux, trois versets où nous lisons. J'enverrai les frelons devant toi. C'est imagé, hein? C'est pas forcément littéral. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Écoutez bien. Dites oui si vous êtes éveillés. Dites oui si vous êtes éveillés.
Oui.
Ça va bien. Maintenant, écoutez bien. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Alors, lorsqu'il parle ici finalement des animaux sauvages ou de frelons, c'est une façon imagée de parler de l'ennemi. Et donc, Dieu est en train de préparer son peuple aussi bien à des interventions miraculeuses, mais qu'à ce facteur temps. Je ne les chasserai pas loin de ta face en une seule année. Et on peut aller encore plus loin dans le livre de la Deutéronome, au chapitre 7 et au verset 2, où nous disons 22, hein? C'est bien ça?
Oui, c'est
22. Ah oui, c'est 22, excusez-moi. Donc, verset 22, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. » Donc, tout comme dans l'étape de l'occupation sous Josué, cela a pris 7 ans, malgré les murailles de Jéricho qui sont tombées, malgré les grêlons, malgré le soleil qui s'est arrêté dans son cours, de même dans cette étape de la consolidation, Dieu intègre le facteur temps. Ces deux étapes illustrent à merveille l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il y a l'étape de l'occupation et il y a l'étape de la consolidation. Dieu, dans sa grâce, intervient dans notre vie pour, par son esprit, nous régénérer, faire de nous ses enfants. Pour certaines personnes, ils peuvent situer le jour et pratiquement l'heure de leur conversion. Mais pour d'autres, moi-même y compris, finalement ça s'est passé avec le facteur temps, sur plusieurs années, jusqu'au moment où il y avait le déclic, et finalement j'ai compris. Et je constate souvent, et en particulier pour les enfants de chrétiens, qui connaissent souvent le message mieux que le messager, que finalement, ils connaissent la vérité au sujet de la vérité, mais le déclic n'a pas eu lieu. Il y a des camps, il y a des codes de dimanche, il y a des chants qu'ils apprennent par cœur, et il y a des rencontres fortuites, et puis à un moment donné, dans la grâce de Dieu, déclic, compris. Facteur temps, y compris pour la conversion. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes ces conversions qui ont lieu, j'allais dire à froid, instantanément, mais il ne faut pas en faire une norme. Et dans l'étape de la consolidation, parce que la conversion en est une chose, l'occupation de Dieu, de notre être par son esprit, en est une chose. Mais ce n'est que le début. La suite, la consolidation, ça, c'est un long processus. Et où nous sommes appelés à collaborer avec l'Esprit de Dieu pour nettoyer toutes les poches de résistance dans notre vie. Et ça, c'est un travail à long haleine. C'est ce dont on a parlé ce matin, ici au culte. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne va la poursuivre jusqu'à l'achèvement au jour de Christ. Poursuivre jusqu'à l'achèvement, c'est l'étape de la consolidation. Et ça, c'est dans l'étape dans laquelle nous nous trouvons, vous et moi, actuellement. Donc, il y a un parallèle ici, dans le livre de Josué, entre occupation, que l'on peut appeler, si on veut, conversion, et consolidation, que l'on peut appeler sanctification ou transformation. Les deux étapes sont indispensables, et les deux étapes incluent aussi bien les interventions miraculeuses de Dieu que le facteur temps. Alors, dans cette étape de la consolidation, on constate qu'il y a deux principes que l'on trouve dans ces chapitres. Très rapidement, je ne vais pas les commenter, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais il y a d'abord l'établissement de ces villes de refuge. Les villes de refuge qui permettent à ce que des personnes qui ont commis des crimes, mais sans être des crimes intentionnels, puissent y courir pour être protégés des vengeurs de sang, de ceux qui veulent finalement tirer vengeance. Parce que il y a dans cette étape de la consolidation où le peuple nettoie les poches de résistance, il doit y avoir justice. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Et le peuple de Dieu, aussi bien de l'Ancienne Alliance que de la Nouvelle, doit être un peuple assoiffé de justice. Alors ça peut avoir plusieurs retombées. Ça peut aller jusqu'à dans tout ce qui est le travail social, humanitaire. Ça peut être dans tout ce qui est défendre les droits des réfugiés et des migrants. Mais le chrétien doit être caractérisé par la justice. Donc je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut être. Il faut être juste dans notre comportement. Juste dans le contexte de nos rapports les uns avec les autres, dans l'Église, et juste finalement dans la société plus large. Ça c'est finalement une caractéristique du peuple de Dieu. Mais le deuxième, et la proportion est intéressante, il y a 48 villes où doivent habiter les Lévites. Autrement dit, le peuple de Dieu doit être un peuple juste, mais le peuple de Dieu doit être un peuple centré sur Dieu. Le cultuel est au centre, et le cultuel est bigrement plus important que la justice. Alors je vais arrêter là. Pour maintenant, ah oui, la ville de refuge, je ne sais pas pourquoi je vais en arrière, mais maintenant, l'échec de la consolidation. Sous Josué, l'étape de l'occupation s'est fort bien déroulée. Et l'évaluation de la parole de Dieu en Josué 23-24 c'est que tout ce que l'Éternel avait promis à Josué s'est réalisé. C'est fort bien réalisé. Et l'étape de la consolidation, mais c'était l'échec. L'échec. Et déjà, en Josué 18, nous avons une première indication. En Josué 18, après que Josué a envoyé toutes les tribus pour prendre possession de leur pays, en Josué 18, au verset 3, nous trouvons un premier problème. Je lis. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Autrement dit, entre chapitre 13 et chapitre 18, trois tribus avaient pris possession et commençaient à nettoyer les poches de résistance, mais les autres tribus, finalement, sont restées en arrière et n'ont pas pris, finalement, possession de leur territoire. Et pourtant, début du chapitre 18, verset 1, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo. 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 Silo, le lieu du tabernacle, la tente de la rencontre. Tout le peuple était là, devant le tabernacle. Et puis, le texte continue, le pays était soumis devant eux, une étape favorable pour la consolidation. Il restait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Reçu, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore pris possession de leur part d'héritage. Ils étaient là, en train de chanter leur cantique, ils étaient devant le tabernacle, à Silo, tout allait bien. Le pays était en paix, tranquille, ils auraient pu entrer sur leur territoire respectif, nettoyer les poches de résistance, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et Josué appelle ça négligence. Négligence. C'est quoi, finalement, ne pas entrer dans cette étape de consolidation? Josué l'appelle négligence, moi je l'appelle ingratitude. C'est l'ingratitude. Devant tout ce que l'Éternel a fait pour occuper le territoire, cette tribu, pour l'instant, ne voulait pas aller plus loin pour nettoyer les poches de résistance. Et ce n'est rien d'autre que de l'ingratitude. Autrement dit, ils n'ont pas compris suffisamment ce que Dieu avait déjà accompli pour eux. Parenthèse. Dans mon parcours de chrétien, et en particulier en tant que quelqu'un qui est pratiquement, pendant tout mon parcours en France, j'étais dans les mouvements plutôt de jeunesse, que ce soit Opération Mobilisation ou par la suite à l'Institut Biblique, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, finalement, qui sont bloqués dans cette étape de la consolidation. Beaucoup de chrétiens, finalement, qui baissent les bras devant ce devoir de nettoyer les poches de résistance dans leur vie. Beaucoup qui hésitent à entrer dans le combat contre le péché, contre toutes les séductions par lesquelles ils sont entourés. Et donc, beaucoup de chrétiens bloquent à l'étape de la consolidation, comme ici, dans le livre de Josué. En fin de compte, il y a beaucoup de chrétiens, dit autrement, qui sont très contents de l'étape de la conversion, mais qui finalement bloquent devant la transformation. Billy Graham, à l'époque, c'était assez surprenant, lui qui était évangéliste, il disait la chose suivante, 80% des chrétiens vivent dans la défaite. Alors c'est un chiffre, c'est une statistique, on peut discuter. Est-ce que c'est 60, 80, 85, 82,5, peu importe. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la majorité des chrétiens bloquent à l'étape de la consolidation. Est-ce que vous connaissez, vous, dans vos assemblées, dans votre entourage, des chrétiens qui ne semblent pas avancer, croître, grandir dans la foi? Et parfois, on s'étonne. Moi, j'ai eu des chrétiens, jeunes, qui, à l'Institut biblique, ils ont pu écrire une dissertation sur le pardon. Mais j'ai eu finalement des conflits entre étudiants où l'un des étudiants m'a dit « Je refuse d'entrer dans une démarche de pardon. » Et on se dit « Mais c'est pas possible. » On passe une année dans un institut biblique et on se trouve confronté à quelqu'un qui dit « Non, c'est à lui de prendre l'initiative, c'est à lui d'entrer dans la démarche avant moi. C'est lui qui m'a fait tort, c'est à lui de demander pardon. » Et on entre finalement dans un cercle vicieux où les relations s'empoisonnent. Pour vous qui voulez connaître la suite de cette histoire, ça a duré jusqu'à la fin de l'année, et donc je lui ai refusé les certificats en disant on ne peut pas donner un certificat à quelqu'un qui ne passe que ses examens académiques et qui refuse de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Heureusement, ça a été l'électrochoc qui lui a permis de revenir à l'Évangile, et il est maintenant pasteur en France. Mais beaucoup de chrétiens bloquent à la transformation. Nous avons sur le site d'Évangile 21 un cours de counseling biblique dont le titre est « Dynamique de changement biblique ». Et ce cours, finalement, c'est le béaba de la transformation de l'être humain par l'Évangile. Et c'est indispensable. Et c'est pour ça que je dis que l'Évangile est au centre de tout ce que l'on fait. Parce que l'Évangile, c'est conversion, transformation. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et le chrétien qui bloque, il faut absolument, absolument travailler avec eux pour les aider, finalement, à appliquer l'Évangile dans leur vie. Donc ici, l'étape de la consolidation, cette tribu qui ne voulait pas aller plus loin, qui reste bloquée, Josué appelle ça négligence. Je peux l'appeler aussi ingratitude. Plus que cela, on ne trouve pas dans le livre de Josué. Mais il faut aller dans le livre des juges pour davantage comprendre l'échec de la consolidation. Et là, dès le chapitre 1 du livre des juges, qu'est-ce que l'on lit? Mais les 18 premiers versets du chapitre 1, on constate que Judas remporte une victoire après l'autre, une victoire après l'autre, une victoire après l'autre, jusqu'au verset 19. Et puis à partir du verset 21, Benjamin ne déposséda pas. Et ensuite, c'est finalement une liturgie. Zabulon ne déposséda pas. Éphraïm ne déposséda pas. Manassé ne déposséda pas. Zabulon ou Nephtali ne déposséda pas. Et finalement, non seulement Dan ne dépossède pas, mais Dan se laisse finalement repousser dans les montagnes. Et le restant du livre des juges, c'est finalement l'histoire triste d'un peuple qui n'a pas entamé l'étape de la consolidation. Et on peut se poser la question, y a-t-il d'autres raisons pour cet échec? Il y a la négligence dont parle Josué. Y a-t-il d'autres? Je vous propose qu'il y en a au moins trois, et rapidement je les énumère, et on termine cette première partie. Mais c'est dans le livre des juges que l'on trouve ces trois autres raisons qui expliquent l'échec. Donc il y a la négligence, Josué en parle. Juge 1, 19, voilà un verset pour vous faire des cauchemars et tourner en rond pendant des heures. Juge 1, 19. L'Éternel fut avec Josué, ou avec Judas, qui se rendait maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Réfléchissez bien. L'Éternel était avec, mais il ne put. Ça va à l'encontre de tout ce que vous croyez, ça. Ça va à l'encontre, finalement, de notre théologie occidentale positiviste.
Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, et ainsi de suite. L'Éternel fut avec,
mais il ne put.
Alors vous trouverez pas simplement des commentaires, j'en donne un. Facteur temps. Le texte ne dit nulle part que Judas n'a pas essayé. Le texte ne nous laisse pas croire qu'il y avait un compromis avec les Cananéens. Le texte dit que, provisoirement, Judas se trouvait devant un ennemi plus fort, mais il n'a pas pu remporter la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas essayé. Par la suite, c'est finalement ne déposséda pas, ne déposséda pas, ne déposséda pas, ne déposséda pas. Autrement dit, les autres tribus, ils n'ont même pas essayé. Qu'est-ce qui explique finalement l'échec? C'est le compromis. Et c'est quoi le compromis? Est-ce que le compromis est une désobéissance ponctuelle? Pas du tout. Autrement dit, nous sommes tous dans le compromis. Non, le compromis, c'est baisser les bras. Le compromis, c'est de ne pas essayer. Mais pour moi, j'ai tout lieu de croire que ce verset 19 me laisse entrevoir une tribu de Judas avec qui l'Éternel était et combattait avec. Mais là, ils étaient provisoirement devant un ennemi. Maintenant, je sais que ça peut troubler, mais je vais vous troubler davantage. Dans ma vie, les combats que je mène, ce sont les mêmes combats que je mène depuis 50-60 ans de vie chrétienne. D'intensité variable. Avec finalement parfois des facteurs différents. Mais avec mon vécu, ma famille, mon contexte social, tout ce que moi j'ai vécu comme jeune, tout ce que j'ai vécu par la suite, avec les différentes difficultés que l'on a pu connaître, et puis aussi la vie chrétienne, j'ai dans ma vie des fragilités. Et ces fragilités de ma vie, ce sont finalement les domaines où Satan, il a une emprise. Je ne parle pas de possession. Mais où Satan, il a un terrain facile. Il a une emprise. Parce que j'ai des fragilités. Et pour me faire dévier, pour me faire déraper, il sait très bien comment titiller ces fragilités dans ma vie. Et moi, je dirais, après 60 ans, même si je ne cède pas devant ces tentations, je ne vais pas dire que je vais remporter la victoire non plus. Et c'est pour ça que j'exècre le triomphalisme évangélique. Toutes ces personnes qui parlent de la victoire remportée avec une présomption inexcusable. Nous sommes fragiles. Nous avons tous des fragilités. Tous nous avons des emprises où Satan peut nous faire éliminer du jour au lendemain. Et où nous avons besoin de beaucoup plus d'humilité. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la partie, mais ça veut dire qu'on reconnaît sa fragilité, sa vulnérabilité, et que si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne tient plus dans la course. Il n'y a qu'une seule explication, si vous et moi nous sommes debout aujourd'hui, et ce n'est pas parce que nous connaissons la Bible mieux que les autres, c'est que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Compromis, c'est abandonner la partie. Le compromis, c'est baisser les bras. Le compromis, c'est de dire devant le péché, c'est plus fort que moi, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce qui explique le laxisme dans l'Église. C'est ce qui explique pourquoi on passe l'éponge sur toutes les situations conflictuelles, sur l'immoralité, sur l'adultère, sur les relations immorales. On passe l'éponge parce qu'on veut tout comprendre, tout expliquer et on amoindrit la gravité du péché. C'est pas ça ce que dit ce verset. L'Éternel fut avec, il ne put, mais il continue dans la bataille. Ensuite, négligence. Compromis, et puis Juges, chapitre 2, verset 10. Nous lisons au début de ce chapitre, au verset 6, que Josué renvoyait le peuple, et les Israélites allaient prendre possession du pays, chacun dans son territoire ou son héritage. Et puis, le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Verset 10. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Donc, si vous lisez le livre des Juges, vous constaterez que le peuple a continué à faire les fêtes, les cérémonies. Mais il y avait une génération, deuxième, troisième génération, qui s'est levée, qui connaissait la vérité au sujet de la vérité, mais qui n'avait plus cette relation personnelle avec Dieu. Une génération, finalement, qui avait entendu parler d'eux, mais qui ne connaissait pas. Une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et remarquez le verbe qui est utilisé là, au verset 7. Il s'est levé finalement une génération qui avait vu toutes les grandes œuvres de l'Éternel. Mais il s'est levé par la suite une génération qui n'a pas vu. Qu'est-ce connaître l'Éternel si ce n'est expérimenter l'Éternel? Si je parlais avec ces livres de jeunes tout à l'heure en disant que souvent il y a un processus dans la vie de quelqu'un jusqu'au déclic. Bon, on a compris. Chaque génération a besoin de gloire. Chaque génération a besoin de gloire. Et s'il y a compromis dans une première génération, Benjamin ne déposséda pas, Manassé ne déposséda pas, Éphraïm ne déposséda pas, Dan fut repoussé dans les montagnes, s'il y a une génération qui compromet l'Évangile, la génération suivante n'a rien vu de l'Évangile. Et c'est ça qui est grave. C'est ce qui est grave. Élevé dans une famille chrétienne, 3-4 générations, à l'âge de 19 ans, tout en m'étant converti à 14 ans, à l'âge de 19 ans, l'Évangile était pour moi une belle théorie. Jeune étudiant, je suis allé écouter un jeune prédicateur qui avait 4 ans de plus que moi et qui, pour la première fois, tenait une rencontre en Angleterre, et c'était Georges Vervel, le fondateur d'OM. Et je suis sorti de cette rencontre, et je me suis posé une question. Es-tu chrétien? Parce que finalement, il m'a présenté une vision de ce qu'est la vie chrétienne, la réalité chrétienne, ce qu'est le vécu avec Dieu, devant la parole, devant la prière, devant l'évangélisation, de telle sorte que je me suis interrogé. Es-tu chrétien? Et cette seule rencontre a changé toute ma vie. Ça fait en sorte que je suis venu en France, soi-disant pour un mois, en 1963, en tant que jeune chrétien. Et ce mois s'est transformé en plus de 50 ans. Il fallait que je voie. Et le souci que j'ai pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est que même s'ils voient les fragilités de ma vie, c'est qu'ils puissent voir l'Évangile et la réalité de l'Évangile. Chaque génération a le besoin de voir et pas simplement entendre. Il s'agit d'une génération qui ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Et en dernier lieu, chapitre 3, toujours de Juges. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. ce texte vaut réflexion. Parce que ce texte nous apprend une chose. On n'apprécie jamais quoi que ce soit qui ne nous a rien coûté. Le combat. La vie chrétienne est un combat. Et cela est finalement très éloigné de notre théologie occidentale de facilité. Où finalement nous nous sommes laissés séduire pour sombrer dans des évangiles positivistes. Où finalement Dieu veut notre bien-être, notre épanouissement. Dieu tourne autour de notre nombril pour que nous puissions finalement progresser dans la vie et réussir. Mais finalement, Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes à son service. Et être à son service veut dire nous sommes dans un combat. J'en ai assez de voir, finalement, les mouvements de jeunesse qui démarrent bien dans les débuts des œuvres chrétiennes et qui sont les mouvements de jeunesse qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu, qui, dans les camps d'été, font de l'évangélisation. Et je ne suis pas contre la distraction, le sport et tout le reste. Mais la priorité était évangélisation. C'est pour ça que j'appuie les œuvres comme OM et autres. Il faut introduire nos jeunes à la notion du sacrifice et du combat. Parce que ça, c'est la vie chrétienne. Pas dans le sens, finalement, pas devoir à contre-cœur, mais nous verrons ça plus tard cet après-midi. Mais parce que ça, c'est la réalité. Et petit à petit, ces œuvres de jeunesse qui progressent deviennent de plus en plus des œuvres de loisirs, de distraction. Et de moins en moins, les jeunes sont confrontés aux vraies réalités de la vie. Alors, il faut équilibre. Je suis le premier à le reconnaître. Mais en même temps, s'il n'y a pas, pour notre jeunesse, une notion de sacrifice, de mort à soi, du coût de la vie chrétienne, nous allons finalement produire une génération de prématurés. Une génération de personnes nées avant terme. Mais pas une génération de combattants. Et Dieu a laissé en place, dit le texte, lisez-le pour vous-même, Dieu a laissé en place des ennemis pour que les Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent la guerre. Alors ce n'est pas du sadisme, et ce n'est pas du masochisme de ma part, mais c'est une réalité. La vie chrétienne n'est pas un pique-nique évangélique. Un barbecue sans fin. La vie chrétienne, finalement, est un combat rude contre un ennemi réel. Et si nous ne sommes pas armés, nous sommes condamnés. Pourquoi l'échec de la consolidation que Josué le reconnaît? Il consacre 17 ou 8 longs chapitres à faire la ventilation géographique des territoires. Et il fait une seule évaluation. Comment se fait-il que vous négligez d'entrer sur votre territoire? Bande d'ingrats. Interprétation moderne. Comment se fait-il que vous négligez? Et c'est dans le livre des juges où on constate le dérapage total que nous pouvons voir d'autres raisons de cet échec. Compromis devant cette étape de consolidation, où finalement, devant un ennemi puissant, et où on se rend compte que Dieu est avec nous, mais parfois il y a des ennemis où on n'arrive pas, facteur temps, de remporter la victoire, mais on continue, on ne se laisse pas abattre. Le compromis, je baisse les bras. Absence de connaissance, pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui n'a pas vu. Et une génération qui n'a pas vu ne va jamais s'engager dans le combat. Et voilà comment le livre des juges termine le livre de Josué. Mais j'ai oublié le PowerPoint. Mais tout ça, je l'ai donné donc en abrégé et vous pouvez avoir le PowerPoint pour vous-même. Questions sur ce que nous avons vu. 5 minutes de questions et puis 20 minutes de repos pour moi.